Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Vincent Parisot.
Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. C'est parti pour 2 heures d'info avec à la une le remaniement, enfin 4 sortants, 8 entrants, un fidèle à l'intérieur, Christophe Castaner, un ex-républicain à la culture, Franck Riester, et un ex-socialiste à l'agriculture, Didier Guillaume. Pas de rééquilibrage politique si ce n'est un renforcement du MoDem, pas de nomination spectaculaire, mais l'envie d'un second souffle. Emmanuel Macron fera une allocution à 20h à la télévision et sur RTL. Vous pourrez l'entendre. Alors dans RTL Soir, on va largement revenir sur ce remaniement attendu depuis 2 semaines, annoncé donc ce matin. Jean-Claude Delage d'Alliance Police nous dira ce que pensent les policiers de leur nouveau ministre. Et puis vous entendrez les réactions en direct de Nicolas Bay pour le FN, Éric Ciotti pour les Républicains, Hervé Berville pour En Marche. À 18h30, Alain Duhamel bien sûr. Et à 19h15, le débat dans On refait le monde. RTL Soir, première édition. C'est avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et les autres titres?
En plein remaniement, la police perquisitionne chez Jean-Luc Mélenchon et au siège de la France Insoumise. Colère homérique et très médiatique du patron des Insoumis qui a filmé l'opération et l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Récit complet dans un instant. Dans l'Aude, l'heure est à la décrue et au nettoyage pour les sinistrés des inondations. Certains ont tout perdu. La solidarité s'organise, vous allez l'entendre. À suivre également un coup de théâtre au procès du meurtre d'Hélène Pastor. Maître Dupont-Moretti affirme finalement que le gendre de la milliardaire est bien le commanditaire. Le secrétaire d'État américain à Riyad pour tenter de dénouer l'affaire Khashoggi. Et puis, un classique indémodable en football, France-Allemagne au Stade de France. La Bourse de Paris, elle termine en nette baisse d'1,53% à 5173 points. Les courses à Chantilly, il fallait jouer le 13, l'As, le 12, le 2 et le 15.
Et à la fin du journal d'Isabelle Choquet, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, combien d'habitants en zone inondable, quelles précautions doivent-ils prendre? À 18h25, les coulisses de l'actualité en ce 16 octobre, journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Eh bien, on vous emmènera dans les cuisines de 2 hôpitaux parisiens qui redistribuent leur surplus à des associations. Et puis la météo, Patricia Charbonnier, pour demain un temps plus calme, avec tout de même de faibles averses près de la Méditerranée.
Les averses seront plus faibles et plus localisées à partir de ce soir. D'ailleurs, la vigilance rouge est levée sur le département de l'Aude, qui est maintenant vigilance orange, crue inondation. En revanche, sur la Haute-Corse, ce soir, c'est encore très instable, avec des orages localement forts et surtout stationnaires, avec des cumuls très importants sous ces orages. Donc demain, ça restera nuageux près de la Méditerranée et sur la côte atlantique, avec quelques averses, mais faibles. Et partout ailleurs, c'est toujours la même météo, c'est toujours un temps sec et très ensoleillé, en particulier du nord-est jusqu'au centre, avec des températures toujours très élevées, jusqu'à 20 degrés demain après-midi à Lille comme à Toulouse, 22 à Tours, 23 à Paris et Marseille et 25 à Bourges.
Merci, à tout à l'heure Patricia.
RTL Soir.
On peut dire que son indignation très médiatique a quasiment fait passer le remaniement au second plan. Aujourd'hui, des perquisitions ont eu lieu chez Jean-Luc Mélenchon.
À son domicile, mais aussi au siège de la France Insoumise et chez plusieurs collaborateurs. Une dizaine d'opérations en tout dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires. L'une sur des emplois présumés fictifs au Parlement européen et l'autre sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Le leader de la France Insoumise a exprimé sa colère avec un grand sens de la mise en scène.
Oui, et quand tôt ce matin, la police frappe à sa porte, Jean-Luc Mélenchon, d'abord surpris, se ressaisit rapidement. Il filme et diffuse la scène en direct sur les réseaux sociaux.
Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire.
Branle-bas de combat, les insoumis rejoignent rapidement leur patron devant le siège du mouvement, à quelques rues de là.
Monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Ça suffit, monsieur Macron. Ceci est encore une république et une démocratie.
Résistance ! À l'Assemblée, l'après-midi, la colère de Jean-Luc Mélenchon n'est toujours pas retombée quand il interpelle le Premier ministre.
Ce n'est plus de la justice, ce n'est plus de la police. Ma question, les motifs infamants pour lesquels vous prétendez nous poursuivre.
La justice est évidemment indépendante et il nous appartient de faire prévaloir ce principe d'indépendance.
Mais ça ne convainc pas les insoumis, ni Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National souligne sur Twitter que désormais le pouvoir accède à tous les documents de l'opposition.
Marie-Bénédicte Allaire. Voilà donc pour la journée de Jean-Luc Mélenchon. Tout ceci a eu lieu, on vous le rappelle, en plein remaniement. Emmanuel Macron doit d'ailleurs s'exprimer à 20h à la télévision et sur RTL.
Oui, il aura donc fallu 15 jours pour trouver un remplaçant à Gérard Collomb. C'est Christophe Castaner, le fidèle lieutenant patron de La République En Marche, qui prend les rênes place Beauvau. Au total, il y a 8 petits nouveaux dans ce gouvernement pour 4 sortants. Bonsoir Olivier Bost.
Bonsoir.
Dans 2 heures, donc, à la télé, le président va défendre ses choix.
Oui, des choix très politiques et savamment dosés. Ce qu'a fait le président avec ce remaniement, c'est remplacer des maillons faibles pour se relancer. Il ne changera rien à sa politique, mais a besoin de retrouver des soutiens pour la mener. La super ministre des Territoires, Jacqueline Gourault, est là pour ça, pour renouer avec des élus passablement énervés et déçus. Emmanuel Macron revient aussi à une forme d'équilibre de ses débuts. Un ancien socialiste, Didier Guillaume, remplace au ministère de l'Agriculture un ancien socialiste, Stéphane Travert. Un ancien Les Républicains, Franck Riester, devient ministre de la Culture. Un modem, Marc Fesneau, fait aussi son entrée, en plus de la promotion de Jacqueline Gourault. Le chef de l'État n'oublie pas non plus de récompenser quelques jeunes pousses d'En Marche. Julien de Normandie, promu ministre délégué, ou les députés Christelle Dubos et Gabriel Attal, secrétaire d'État. Tous ces choix sont des signaux pour les prochaines élections européennes et surtout municipales. Après 15 jours d'atermoiement, Emmanuel Macron tente donc bien avec un remaniement et une intervention ce soir à la télévision. Il tente bien de retrouver un souffle politique.
Merci Olivier Bost, intervention que vous commenterez d'ailleurs tout à l'heure avec Alain Duhamel. Et comme le veut la tradition, le tout nouveau ministre de l'Intérieur s'est immédiatement rendu sur le terrain.
Oui, passation de pouvoir rapide avec Édouard Philippe et ensuite direction la Seine-Saint-Denis. Déplacement en tandem puisque le ministre est maintenant épaulé par un secrétaire d'État, Laurent Nunez, ex-patron du renseignement. Olivier Bois, vous avez suivi cette visite pour RTL. Christophe Castaner a rencontré entre autres des policiers des Lilas où un collégien de 13 ans a été tué ce week-end.
Oui, l'exercice obligé pour un ministre de l'Intérieur le jour de sa nomination qui va sur le terrain, si possible en banlieue, pour rencontrer les policiers et les gendarmes du quotidien. Christophe Castaner avait donc choisi les Lilas, vous l'avez dit, après la mort de ce jeune dans une bagarre de bande.
C'est insupportable de voir la banalisation de cette violence. Et nous avons souhaité tous les deux nous rendre sur place, d'abord pour accompagner celles et ceux qui au quotidien assurent la sécurité de proximité là, tous les jours, toutes les nuits. La plus grande injustice, c'est une injustice trop souvent sociale qui est liée à cette sécurité-là.
Alors, ce qui était plus original aujourd'hui, c'est la photo, c'est de voir Christophe Castaner, justement, à côté de son secrétaire d'État, Laurent Nunez, que les Français connaissent moins. Il était jusque-là, vous l'avez dit, le patron de la DGSI. Il est resté absolument silencieux, mais il connaissait en revanche tous les policiers, tous les gendarmes qu'on a croisés aujourd'hui. Comme un aperçu de ce qui sera, au fond, l'équilibre de ce nouveau tandem de la place Beauvau. Christophe Castaner, le proche du président, le ministre très politique, secondé par un homme de terrain qui connaît tous les rouages de la police et de la gendarmerie et qui sera chargé au quotidien de faire tourner en coulisses le ministère de l'Intérieur.
Merci Olivier Bois. Voilà donc pour cette grosse page politique. Évidemment, maintenant, on part dans l'Aude parce que si l'heure est à l'accalmie, Isabelle, la région de Carcassonne, elle est dévastée.
Oui, le bilan des inondations est toujours de 12 morts, mais on compte encore 2 personnes disparues et 9 blessées. La décrue est en cours. L'alerte rouge a été levée, Patricia nous le disait tout à l'heure, mais la vigilance orange reste de mise. Plus de 70 communes ont été touchées. Des milliers de personnes se retrouvent sans logement, sans rien pour certaines. Aline Thibault, vous avez passé la journée auprès des sinistrés à Ville-Gaillenc.
Dans la petite cantine scolaire transformée en QG de crise, c'est un bel et bien réglé. Sur des listes, Sylvie et son équipe de bénévoles recensent les besoins des sinistrés.
Toute l'équipe a fait le tour du village complet, maison par maison, mais pour voilà, savoir les besoins. C'est un travail de fourmi, quoi.
André est artisan ramoneur dans le village. Moi, j'ai un toit, dit-il, alors je me dois d'aider les autres.
Mes fournisseurs d'entreprise m'ont téléphoné tout ce moment donné comment ça allait et qu'est-ce qu'on avait besoin. C'est ce qu'on a besoin de raclette de pelle. Donc ils m'ont dit, mais tu viens et on tourne ce qu'on a.
Une camionnette arrive près de la mairie, au volant, Rachid.
S'il vous plaît, on a besoin de bras pour décharger l'eau.
Cette eau, elle vient d'où ?
C'est l'armée qui nous l'a évacuée par hélicoptère au stade, donc nous, on l'a chargée. Maintenant, on passe chez les gens, on leur donne de l'eau parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou quoi, et qu'il n'y a plus d'eau dans le village.
Et pour ceux qui ont tout perdu, comme Béatrice, c'est comme une respiration.
Je passe aux dons des gens, je peux même avoir des chaussures parce que j'étais en tongs, et donc je viens m'habiller. Et ça fait chaud au cœur de voir déjà tout le monde qui est souriant, tout le monde qui est accueillant. Pour moi, c'est énorme, c'est beaucoup.
Et c'est cette entraide qui souvent leur permet de ne pas craquer.
Le reportage RTL d'Aline Thibal dans l'Aude. Parmi les communes touchées par les inondations, il y a Trèbes, où une attaque terroriste a coûté la vie à 4 personnes en mars dernier. Et bien aujourd'hui, 6 personnes ont été placées en garde à vue dans cette enquête. Une mini marée noire sur le littoral du Var, une semaine après une collision entre deux navires au large de la Corse. Des galettes d'hydrocarbures s'échouent maintenant sur certaines plages, dont la fameuse plage de Pamplonne dans le golfe de Saint-Tropez, rendue célèbre par Brigitte Bardot.
Allez, on marque une pause et dans un instant, ce coup de théâtre au procès du meurtre d'Hélène Pastor. À tout de suite.
RTL soir 18h11, Vincent Parisot, et pour la suite du journal Isabelle Choquet.
Et ça s'est passé comme dans un film. On a vécu cet après-midi un retournement spectaculaire au procès Pastor.
Ouais, la milliardaire monégasque a été assassinée il y a 4 ans dans un guet-apens à Nice et son gendre, principal suspect, a toujours nié être impliqué. Et voilà qu'aujourd'hui, à l'heure des plaidoiries, son avocat, Maître Dupont-Moretti, a créé la surprise. Il a reconnu que son client avait commandité l'assassinat, Cindy Hubert.
Oui, cela peut paraître surprenant, mais Éric Dupont-Moretti n'avait pas vraiment d'autre choix, tant ce mois d'audience a été cruel pour son client. Janowski n'a cessé de répéter qu'il était innocent, se perdant dans des monologues sans convaincre, des échappées désastreuses jour après jour, sous les yeux de son avocat qui a bien dû l'admettre. Janowski est rapidement devenu son pire ennemi. D'autant que l'accusé est déjà passé aux aveux, c'était en garde à vue, des confessions filmées que Maître Dupont-Moretti a cru bon de montrer à la cour. L'avocat espérait sans doute que les jurés y voient des aveux extorqués. Les images ont eu précisément l'effet inverse jusqu'au coup de massue finale hier, quand l'avocat général a requis la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Aujourd'hui, Maître Dupont-Moretti s'est donc livré à un exercice de funambule, demandé aux jurés de condamner Janowski pour l'assassinat de sa belle-mère, mais réclamé en même temps de l'acquitter pour celui du chauffeur de la milliardaire. Une ligne de crête périlleuse avant un verdict attendu demain soir.
Merci beaucoup Cindy Hubert. On en arrive à l'affaire Khashoggi. Et cette question, est-ce que l'Arabie Saoudite a, oui ou non, fait exécuter un opposant sur le sol turc? Pour le savoir, eh bien, les États-Unis ont envoyé leur secrétaire d'État à Riyad aujourd'hui.
Oui, 2 semaines exactement après la disparition du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, Mike Pompeo a rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman. Et pour la première fois, Béatrice Adjadj, eh bien, Riyad a accepté le principe d'une enquête sur cette affaire.
Oui, et reçu au palais royal de Riyad, l'émissaire de Donald Trump pose tout sourire aux côtés du prince héritier. Héritier saoudien, MBS, tout aussi souriant, histoire de montrer que les deux pays sont effectivement d'accord pour faire la lumière sur la disparition du journaliste saoudien. N'empêche que le secrétaire d'État à la Défense américain a dû faire le voyage à Riyad pour obtenir cet engagement. D'autre part, les médias américains affirment que MBS, le prince héritier, après avoir nié toute responsabilité dans cette affaire, cherche maintenant une porte de sortie et se prépare à accuser ses propres services de renseignement d'avoir tué le journaliste lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné. Il faut dire aussi que la nuit dernière à Istanbul, la police turque a perquisitionné le consulat saoudien 8 heures durant, ce qui est exceptionnel. Et une source policière turque affirme de façon anonyme que des preuves ont été trouvées de la mort du journaliste saoudien au consulat même. Plusieurs investisseurs parmi les plus riches au monde sont en train de s'interroger sur leur maintien en Arabie Saoudite. Certains annulent leur participation à un forum économique à Riyad. Cette histoire pourrait coûter cher au Royaume saoudien.
Béatrice Adjadj. Et puis le football, évidemment, avec un grand classique ce soir en Ligue des Nations. France-Allemagne au Stade de France.
Un match à enjeu pour les deux équipes. La France doit rectifier le tir après l'Islande et l'Allemagne risque carrément l'élimination. Autant dire qu'on ne peut pas se faire de cadeaux. Et pourtant, Philippe Sanfourche, les deux entraîneurs s'apprécient beaucoup.
Oui, Joachim Löw qui avait pris la plume cet été pour envoyer une très belle lettre manuscrite de félicitations au sélectionneur des Bleus. Didier Deschamps, évidemment désireux de l'emporter ce soir, mais qui ne cache pas en privé qu'il serait très peiné de mettre possiblement fin à 12 ans de mandat de son homologue à la tête de la Mannschaft. Le sélectionneur allemand qui avait déjà eu bien du mal cet été à sauver sa place après l'échec du Mondial.
J'espérais pour lui qu'il puisse rester en poste. J'ai pensé aussi très fort à lui. Il était champion du monde en 2014. Il y a beaucoup de similitudes, de reconnaissance, de respect. Et c'est quelque chose qui est important dans notre métier.
C'est aussi la première fois que les deux sélectionneurs vont se retrouver au Stade de France face à face depuis la tragédie du 13 novembre 2015. Une histoire singulière donc qu'il faudra oublier à 20h45 pour ce match le plus important à n'en pas douter pour les deux équipes depuis le retour du Mondial.
Merci Philippe, le coup d'envoi c'est à 20h45 mais évidemment vous retrouvez sur RTL le club Lisa spécial à partir de 20h et cela jusqu'à 23h. Alors pas évidemment pas tout à fait à partir de 20h puisqu'à 20h on y écoutera le président de la République, Emmanuel Macron, et son allocution. On débriefera ensuite avec notamment Alain Duhamel et Olivier Bost. Et puis, bon, je pense qu'on retrouvera le club Lisa aux alentours de 20h15. Voilà. Merci, Isabelle.
On revient à 18h30.
À 18h30 pour le rappel des titres.